suis vraiment heureux d'avoir justement appris que tu déménages cette semaine. Ça me donne des sourires pour parler du thème de notre année à venir. Ce moment de message est l'occasion de vous présenter un petit peu ce que nous allons parcourir au fil des dimanches, au fil des jeudis soirs, au cours de l'année. Alors, j'attends le diaporama. Et on va lire un passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Une phrase, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser, en recevant la parole que nous vous avons annoncée. Vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. De manière assez, pour placer un petit peu le contexte de cette phrase de Paul, il faut comprendre que Paul a rencontré les Thessaloniciens peu après avoir été emprisonné en Macédoine, dans une ville qui s'appelle Philippe. À peine libéré, il est parti pour Thessalonique, il y est resté 3 semaines. En 3 semaines, il y a des personnes qui ont adhéré à son message, qui sont devenues chrétiennes. Paul a été obligé de partir, d'aller ailleurs, et il est donc dans l'inquiétude de ce qui est arrivé aux Thessaloniciens, qu'il n'a pu côtoyer que 3 semaines. Alors il a envoyé notamment Timothée pour aller prendre des nouvelles et encourager ces jeunes chrétiens. Mais le souci, c'est que les Thessaloniciens, comme Paul, font face à de l'opposition. Ils font face à la persécution. Et par conséquent, Paul se pose une question évidente. Est-ce que les chrétiens de Thessalonique n'ont pas été balayés par l'opposition qu'ils ont rencontrée? Autrement dit, en fait, Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, pourrait tout à fait nous écrire. Non pas que nous soyons ici en France confrontés à la persécution, mais tout simplement parce que, comme les Thessaloniciens, nous sommes dans une culture qui est de plus en plus indifférente au christianisme, parfois hostile, dans une société qui accorde plus de place au matérialisme qu'au spirituel, dans une société où les convictions spirituelles sont reléguées à la sphère privée. Et parler de notre foi en public demande du courage. Et Paul est aussi confronté au fait que la Bible, la parole de Dieu, les Écritures sur lesquelles il appuie son message, sont sans cesse remises en question, leur véracité est bousculée. Autrement dit, ce passage pourrait très bien s'appliquer à nous aujourd'hui. Les Thessaloniciens sont des chrétiens sous pression. De la même manière que nous, Lyonnais, pouvons aussi nous considérer comme des chrétiens sous pression. Alors que fait Paul pour soutenir ces Thessaloniciens? Eh bien, il va les encourager en réaffirmant que la Bible, que la parole de Dieu, est un livre dans lequel nous pouvons avoir confiance. Autrement dit, le but de ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est de se poser la question, est-ce que c'est toujours valable de continuer à lire la Bible aujourd'hui? Est-ce que c'est pertinent de considérer que la Bible est la parole de Dieu? Alors, sachez que cette réflexion et cette affirmation de Paul, elle a été faite donc il y a 2000 ans, mais tout au long de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu a été remise en question encore et encore. Et c'est tout à fait bon pour nous de prendre le temps de réfléchir et de se dire, mais pourquoi est-ce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Si on pense à la Réforme, il y a notamment Théodore de Bèze qui a écrit cette phrase célèbre, « Plus à me frapper en s'amuse, tant plus de marteau en y use », en référence à la parole de Dieu. Vaut-il la peine de considérer que la Bible est la parole de Dieu aujourd'hui? Alors, je vous propose de suivre des étapes très simples. Tout d'abord, on va réfléchir sur l'idée que la parole est unique, communication et divine. Et puis dans un dixième temps, on verra en quoi elle est vivante et efficace. La parole est unique, communication et divine. La parole, c'est un terme qui est polysémique. Cela signifie que ce mot parole a plusieurs sens. Ce mot parole est utilisé d'ailleurs dans beaucoup d'expressions. Il peut être question de parole en l'air, de moulin à parole, de dire des belles paroles, ou encore de proposer un flot de paroles. Toutes ces expressions font référence au fait que des paroles, au pluriel, peuvent être des choses qui ne sont pas fiables, des choses qui sont ennuyantes. Ici, Paul utilise l'expression « la parole ». Il utilise donc un article défini, au singulier. Il fait donc référence à ce mot « parole » que l'on retrouve dans des expressions comme « une parole d'honneur », « donner sa parole d'honneur », « tenir parole », « être fidèle à sa parole », « faire honneur à sa parole ». Autrement dit, lorsque Paul utilise cette expression de « la parole » avec un article défini singulier, il fait référence à une parole qui est unique, fiable, dans laquelle on peut avoir confiance. C'est exactement ce qui se passe lors de l'échange des vœux pendant une cérémonie de mariage. Les deux époux se promettent différentes choses, mais ce sont des simples paroles qui sont prononcées, et pourtant qui ont des conséquences qui vont se prolonger tout au long de la vie maritale. La parole à laquelle Paul fait référence est unique, et cette parole est communication. Alors évidemment, que communique-t-elle? Qu'est-ce que la parole de Dieu dont Paul parle communique? Alors, je vais répondre à la question très vite par une expression. Regardez ce que le prédicateur californien Rick Warren a dit. Il est possible de connaître la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole. Qu'est-ce que la parole communique? La parole communique une seule chose, c'est la connaissance de Dieu. Autrement dit, connaître la parole juste pour elle-même, savoir connaître toutes les références, être capable de retrouver n'importe quelle expression dans la parole, c'est quelque chose de formidable, mais qui doit être mis au service de la connaissance du Dieu de la parole. L'objectif de cette année, c'est justement de réfléchir à cette phrase et de connaître mieux le Dieu de la parole. Juste pour un petit sondage, est-ce que vous vous souvenez du thème que nous avons étudié l'an dernier, 2013-2014 ? Qui est Dieu pour toi ? On a eu l'occasion notamment de voir quels étaient les attributs de Dieu. Dieu est amour, Dieu est justice, etc. Cette année, 2014-2015, nous voulons nous pencher sur la connaissance de Dieu à travers la Bible. D'où cette expression, la Bible, le cœur de Dieu, un livre ouvert. Alors, on va le faire de différentes manières. Déjà, de septembre à décembre, nous avons prévu de vous proposer donc 8 interventions autour de la parole pour comprendre en quoi elle est riche, multiforme, et elle peut répondre à beaucoup des besoins qui sont les nôtres aujourd'hui. Deuxièmement, les jeudis soirs, pour nos études bibliques, donc un jeudi sur deux, nous avons le désir de pouvoir aussi nous pencher plus spécifiquement sur des aspects techniques, et puis un passage particulièrement riche sur la parole, qui est le psaume 119, 176 versets que nous aurons l'occasion d'étudier donc en deux fois et qui sera un moment particulièrement encourageant pour nous. Alors, évidemment, notre ambition est modeste avec les petits moyens que nous avons dans notre Église, mais nous prions et vous pouvez prier pour que ces temps de messages, ces temps d'études, soient des temps qui soient encourageants, et puis qui nous aide à comprendre en quoi la Bible est la parole de Dieu. de janvier à juin, on bifurquera vers une autre destination, le livre de Marc. On va parcourir donc tout l'évangile de Marc jusqu'à à peu près à fin mai ou début juin, selon les aléas du calendrier. Alors, je vous ai précisé que le dimanche 11 janvier, il y aura un invité. Je peux vous dire son nom, c'est Nicolas Luzac. En fait, tous les deuxièmes dimanches du mois, nous aurons un invité. Donc, dans 15 jours, le 14 septembre, ce sera Gavin, Cesarland, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Nous avons à cœur d'inviter aussi des prédicateurs de l'extérieur, aussi pour profiter de leur expérience, de la qualité de leur enseignement, et puis pour aussi varier les personnes qui sont ici et qui parlent le dimanche matin. Donc chaque deuxième dimanche du mois, un invité sera présent. Pour vous les ados, ce sera l'occasion aussi de pouvoir être là et puis d'écouter ces personnes de l'extérieur. On pense que ça peut être aussi positif pour vous. Le jeudi soir, par contre, donc nous parcourons la vie d'Abraham en 12 étapes, et là aussi ça va être un moment assez intense, mais que nous aurons l'occasion donc de voir à partir de janvier. La parole et communication, son but c'est donc de connaître le Dieu de la parole, et cependant on peut se poser deux questions. Est-ce que la parole n'est pas finalement trop courte? Un livre pour connaître le Dieu éternel et infini. Et en même temps, est-ce que cette parole n'est pas trop longue? Un livre qui fait quand même plus de 1000 pages, et pour lequel il faut s'accrocher pour arriver au bout. Surtout pour vous qui avez du mal à dépasser les livres qui font plus de 30 pages, c'est évidemment un gros défi. Alors, vous connaissez les chiffres, la Bible, c'est un 66 livres, 45 auteurs, des tonnes de chapitres, des tonnes de versets. Pour lire la Bible, vous savez combien de temps il faut pour la lire dans sa tête, sans la lire à haute voix? Il faut à peu près 49 heures, 38 heures pour l'Ancien Testament, 11 heures pour le Nouveau Testament. Bon, autrement dit, à 4 chapitres par jour, en un an, vous avez lu toute la Bible. À haute voix, par contre, si vous allez par exemple sur le site de l'IBG, vous pouvez écouter la Bible, il va falloir à peu près 70 heures d'écoute. Alors, si vous avez un trajet en voiture pour aller au boulot, une heure par jour, c'est vite fait. Mais 70 heures, c'est quand même pas mal de temps. Cependant, j'aimerais faire une remarque là-dessus, parce que s'il faut 45 heures pour lire la Bible, ça veut dire que c'est à peu près une semaine et demie, un peu moins d'une semaine et demie de travail à plein temps. Ce qui veut dire que, certes, la Bible est longue, mais on n'a pas besoin d'être des surhommes ou des super-héros pour arriver à la lire en entier. Maintenant, est-ce que la Bible, pour autant, est trop courte? Eh bien, on a deux phrases qui répondent à cette question. Regardez dans 2 Pierre 1:3. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Je crois que c'est assez clair. La parole est suffisante pour ce que nous avons besoin et pour connaître Dieu. Et puis, il y a même un avertissement tout à la fin des Écritures qui nous dit même qu'il faut qu'on se garde d'ajouter quelque chose, de retrancher quelque chose à la parole, parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut et on n'a pas besoin d'ajouter des choses. Et la particularité de cette parole, c'est qu'elle est donc complète, elle est suffisante, mais c'est la parole de Dieu. Et l'expression ici est très claire. Cette parole qui agit avec efficacité, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Elle est donc unique, elle est divine. Alors, comment Paul, dans ce passage, ose-t-il affirmer qu'il annonce la parole de Dieu? C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a annoncé la parole de Dieu aux Thessaloniciens et qu'ils l'ont reçue comme elle est réellement la parole de Dieu. Mais Paul, avec les Thessaloniciens, il a fait quoi? Il a vécu avec eux, il a partagé avec eux, il a peut-être prêché. En fait, il a simplement pris des versets et il les a expliqués aux Thessaloniciens. Et pourtant, là, il se permet d'affirmer que c'est la parole de Dieu. En fait, La réponse à cette question, elle revient à la manière dont nous considérons les Écritures. Est-ce que, comme Paul, nous pouvons considérer que la Bible est authentique, crédible, canonique, inspirée? Je ne vais pas répondre et détailler ces termes, on le verra plus tard au cours de l'année. Mais surtout, on doit aussi comprendre que Paul est dans un contexte particulier. Il est confronté à des gens qui ne cessent de lui dire que ce qu'il dit, c'est des inventions qui sortent de sa tête, que ce qu'il dit, c'est juste dans le but de s'enrichir, de dominer sur d'autres personnes. Il est dans un contexte où il y a beaucoup de charlatans qui annoncent des messages sortis de leur imagination pour rassembler des gens autour d'eux. Et Paul est donc sur la défensive. Il doit justifier le fait que ce qu'il annonce est bien la parole de Dieu. Et il le fait de cette manière. On n'a pas le temps, mais si on parcourt chapitre 2 en entier, de 1 Thessaloniciens, on peut voir que Paul propose cette raison qui motive le fait que ce qu'il dit est bien la parole de Dieu. Tout d'abord, ses motifs sont sincères. Verset 3. Si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur, ou que nous aurions des motifs malhonnêtes, ou que nous voulions les tromper. Deuxièmement, il parle pour plaire à Dieu. Il parle sans vouloir exploiter son auditoire, sans vouloir être applaudi, sans vouloir être à charge d'aucun de vous. On voit là une attitude totalement désintéressée. Et enfin, Paul travaille en équipe et il a un comportement qui est pur, juste et irréprochable. Autrement dit, est-ce que Paul peut annoncer la parole de Dieu? Il peut le faire uniquement parce que sa vie est en adéquation avec ce qu'il annonce, mais aussi parce qu'il est persuadé que cette parole qu'il annonce, c'est pas juste des mots qui sont écrits sur des feuilles de papier, mais cette parole qu'il annonce, c'est un message vivant, c'est un message qui est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ se présente comme étant la parole de Dieu. Et c'est là où Paul fait quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il prend du temps pour parler aux Thessaloniciens, il leur annonce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et c'est là ce qui fait toute la différence dans notre manière de considérer la Bible et de donner un statut particulier à la Bible. C'est dans la mesure où nous réalisons que ce livre nous permet à la fois de connaître Dieu, mais de réaliser que ce livre nous présente la parole de Dieu incarnée en Jésus-Christ. Et c'est cela qui rend cette parole vivante et efficace. Cette parole de Dieu est vivante et efficace. Quel contraste avec ce que Paul a dû entendre à son époque et avec ce que nous pouvons entendre à notre époque. Une parole qui est vivante et efficace, alors que tout autour de nous semble nous dire que ce livre est à la fois peut-être dépassé, et encore ça c'est pas ce qui est le plus communément partagé, mais que ce livre, surtout, n'a pas vraiment d'efficacité. Et pourtant, ici, il y a bien l'expression d'un livre qui agit en vous qui croyez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, agir en vous? Ça veut dire produire une influence, exercer une influence vivante, active, inspirante. Agir en vous, ça veut dire provoquer une transformation intérieure, dans mes pensées, dans mes réflexions. Ce que Paul dit ici, c'est que la parole de Dieu provoque au plus profond de nous une transformation qui n'est pas superficielle en apparence, mais qui touche au plus profond de notre être. Et d'ailleurs, on retrouve plusieurs expressions ailleurs dans le Nouveau Testament où Paul affirme que la parole touche les cœurs, que c'est la parole de vie, que c'est une parole qui peut éveiller la foi. Regardez dans Romains, chapitre 10, verset 17. C'est la parole de Dieu qui fait naître la foi en nous. C'est aussi la parole de Dieu qui est un juge sur nos motivations et sur nos attitudes. Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais cette parole, certes, elle peut agir à l'intérieur de nous, mais ici, elle agit en qui ? En vous qui croyez. Autrement dit, il est clair ici que la parole n'agit pas comme cela, de manière magique. Une personne ouvre la Bible et bam, elle est frappée par les mots qu'elle entend. Ça peut arriver, mais la réalité, c'est qu'il y a, nécessité de croire dans ce que cette parole dit. Alors, un croyant, bien sûr, on a une définition très claire dans les Écritures qui n'est pas ambiguë. Un croyant, c'est une personne qui croit que Christ a existé en tant qu'homme et fils de Dieu. Mais pour quelqu'un qui n'est pas croyant, pour quelqu'un qui est sceptique, il peut faire cette réflexion. Finalement, si la parole de Dieu te parle ou agit en toi, est-ce que ce n'est pas finalement parce que tu acceptes que ce texte parle et t'influence ? Pour dire ça autrement, est-ce que la parole qui agit n'est pas simplement le résultat d'une anticipation volontaire de ta pensée, de ta volonté ? Le texte parle parce que tu veux bien qu'il parle. Autrement dit, chacun trouve ce qu'il veut dans ce texte. Et c'est une réflexion qui est tout à fait pertinente. Combien de fois on peut regarder un film à plusieurs et on ne verra pas les mêmes choses dans le film et on n'y comprendra pas les mêmes choses selon nos circonstances de vie. Alors, est-ce que c'est la parole qui agit en moi ou est-ce que c'est moi qui agis sur la parole pour qu'elle agisse en moi ? C'est ça la question. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Karen Blixen, une Danoise célèbre qui a écrit un roman Out of Africa qui a été transformé en film il y a une quinzaine d'années et qui a la particularité d'avoir vécu pendant 17 ans au Kenya, donc colonie anglaise. Elle-même était une propriétaire terrienne d'une petite ferme de 4200 hectares, productrice de café. Elle a écrit une nouvelle qui s'appelle « Barua à Soldani », « La lettre du roi ». Et dans cette nouvelle, qui fait 4-5 pages, elle raconte sa participation à un safari. Pendant ce safari, elle tue un lion et elle envoie la peau du lion au roi du Danemark. Ses amis lui disent « Mais tu es folle, qu'est-ce que le roi va faire avec une peau de lion ? Ça ne va servir à rien. » Et de manière assez surprenante, elle reçoit une lettre de la part du roi du Danemark pour la remercier pour la belle peau de lion que Karen Blixen lui a envoyée et qu'il a mis devant son trône dans son palais de Christiansborg à Copenhague. Et elle est tellement touchée par cette lettre qu'elle la plie, elle la remet dans l'enveloppe et elle la glisse dans sa veste. Et à partir de ce moment-là, partout où elle se rend, elle a la lettre avec elle. Un jour, elle va avec son cheval dans son exploitation, dans la forêt, pour aller contrôler des ouvriers qui sont en train de couper des arbres. Et lorsqu'elle arrive sur place, elle entend des cris épouvantables. Un jeune homme a reçu un arbre sur sa jambe et s'est fait fracasser la jambe. C'est une situation assez dramatique. Elle envoie vite d'autres personnes chercher du secours. Mais elle-même se retrouve à côté de ce jeune homme et n'a rien sur elle, alors qu'elle est infirmière, pour le soigner et soulager sa douleur. Et voilà que tout d'un coup, elle a l'idée, elle explique à ce jeune homme qu'elle a sur elle un objet particulièrement précieux, qui est une lettre d'un roi. Et que posséder une lettre d'un roi, cela a une vertu qui permet d'être soulagé et d'être apaisé de ses douleurs. Elle prend la lettre, elle la pose sur le torse du jeune homme et elle lui met la main dessus. Et à partir de là, le jeune homme ressent moins la douleur. La conséquence de cette histoire, c'est que ce jeune homme qui, par la suite, a pu aller à l'hôpital et être soigné, va répandre la nouvelle que Karen Blixen possède une lettre d'un roi qui a une vertu de guérison. Et voilà que des personnes viennent frapper à sa porte pour lui dire « Est-ce que tu peux nous prêter, s'il te plaît, la lettre ? On te la rend demain, promis. Ma grand-mère est en train de mourir, elle souffre énormément et j'aimerais poser la lettre sur elle pour soulager sa douleur. » Est-ce que cette lettre avait des vertus de guérison ? Évidemment non. Mais vous voyez que selon les personnes qui considéraient la lettre, elle lui accordait un statut différent. Pour Karen Blixen, cette lettre, c'était quoi ? C'était quelque chose de précieux, c'était un honneur, c'était un souvenir de son pays qu'elle gardait sur elle avec attention. Pour ces sujets coloniaux, cette lettre, c'était quelque chose, un objet magique dans lequel ils avaient mis une foi superstitieuse, mais qui les réconfortait. Eh bien, pour revenir à ma question de départ, est-ce que c'est la parole qui agit en moi, ou est-ce que c'est moi qui agis sur la parole ? En fait, la question, elle n'est pas tout à fait là. La question, c'est La question, c'est comment est-ce que je considère l'auteur de la lettre ? Pour les deux camps, que ce soit Karen Blixen ou les sujets coloniaux, l'important pour eux, c'était que cette lettre était écrite par un roi. Et ensuite, ils n'y donnaient pas la même valeur. Nous considérons la parole et sa valeur parce que nous savons qu'elle a été écrite par un roi, qu'elle est d'origine divine et que c'est une parole qui est inspirée. C'est une parole qui est l'expression de la pensée de Dieu pour que nous puissions le connaître. Et notre réflexion s'arrête là. De là à prendre cette parole comme un livre magique qui aurait des vertus de guérison ou que l'on mettrait sous verre dans une boîte précieusement chez nous avec une petite bougie allumée devant, c'est pas possible. Ce qui fait la force de la parole de Dieu, ce n'est pas le livre en soi, l'objet en soi. Ce qui en fait sa force, c'est que c'est la lettre d'un roi, c'est que c'est la parole qui nous vient directement de Dieu. Et là, on comprend mieux ce que Paul veut dire. Pour Paul, qui est croyant, et donc pour les croyants, la parole de Dieu est vivante, non pas parce que j'accepte et je la rends vivante par ma propre volonté, mais la parole de Dieu est vivante parce que l'auteur de cette parole est vivant, est Dieu lui-même. Et l'auteur de cette parole a inspiré, rendu active, rendu vivante cette parole par un moyen très simple qui s'appelle le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui distingue un croyant d'un non-croyant ? Qu'est-ce qui fait qu'un croyant peut être sous le bénéfice de l'action de la parole de Dieu ? C'est le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, il est possible de comprendre la Bible, mais il n'est pas possible de découvrir la révélation de Dieu. Il n'est pas possible que Dieu se révèle à nous sans le Saint-Esprit. Et ainsi, c'est comme cela que l'on peut prendre la parole comme le livre par lequel Dieu peut se révéler à nous. Alors attention, je pense qu'il faut bien considérer que la parole de Dieu est certes un livre qui peut agir en nous avec efficacité, mais pour autant, Paul n'est pas naïf. Il est conscient qu'il est aussi possible de mal comprendre la parole. Il est conscient qu'on peut tordre la parole, qu'on peut rajouter des choses, etc. D'ailleurs, pourquoi Paul écrit-il aux Thessaloniciens ? Je vous ai dit au début de ma réflexion que Paul écrit aux Thessaloniciens pour les encourager au milieu de la persécution. Mais il écrit aussi parce qu'il s'est rendu compte que les Thessaloniciens ont mal compris une de ses idées. Paul leur a expliqué que une des grandes espérances de la vie chrétienne, c'était d'attendre le retour de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que certains Thessaloniciens ont compris ? Jésus revient, je vais me préparer, je quitte mon travail et je suis prêt à l'attendre pour son retour. Et Paul est confronté à des gens qui ont donc mal compris sa parole et qui ont adopté une attitude un petit peu extrême. Et en fait, il prend soin de réexpliquer ce qu'il a expliqué dans un premier temps et qui a été mal compris pour que ces Thessaloniciens puissent revenir à une compréhension plus fidèle du texte. Autrement dit, certes, nous avons le Saint-Esprit pour comprendre la parole, mais nous ne pouvons pas nous épargner de confronter notre compréhension de la parole avec la compréhension des autres personnes autour de nous. Et je crois que cette année, c'est aussi un petit peu le but en tant qu'Église, c'est d'ouvrir la parole ensemble pour pouvoir confronter de manière de la comprendre et éviter de partir dans des compréhensions qui seraient complètement erronées. D'autre part, Paul est conscient qu'on a le risque de, parfois, comprendre le texte juste de la manière dont on a envie de la comprendre, de la manière dont ça nous arrange. Et en réalité, le fait de la lire aussi en équipe permet d'éviter de comprendre la parole juste comme ça nous arrange. Mais aussi, Paul est conscient d'une chose très importante, c'est que cette parole doit rester toujours active, agissante en nous. Et que Dieu nous garde de passer une année entière à ouvrir ce livre, à lire la parole, pour au final rester simplement dans des idées théoriques, haut placées, mais qui n'ont pas de conséquences dans nos vies, pour notre Église et pour notre communauté. J'en termine avec ces idées, et je pense que si on peut retenir une idée principale de ce thème que nous avons choisi pour cette année, et qui va nous guider tout au long de l'année, c'est que si cette parole est agissante avec efficacité en nous, c'est bien grâce à une personne, c'est grâce à Christ, celui par qui la parole est devenue vivante, agissante, incarnée, sur terre, et que Paul prêche avec confiance et avec fidélité. Donc, je vous souhaite non seulement un bon dimanche, mais aussi beaucoup de plaisir pour ce parcours autour de la parole pour cette année.
Prions le Seigneur. Seigneur, ensemble, nous voulons te remercier pour ta parole, pour la Bible. Et ensemble, nous voulons te demander de faire en sorte d'agir avec efficacité dans notre cœur, par ta parole, par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions mieux connaître et te servir de façon plus efficace par la suite. Que ta parole agisse avec efficacité dans notre cœur en ce jour et tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen.